corps,
amour,
sexualité.
Calibre, une émission en direct sur Radio Kaléidoscope.
Calibre, une antenne libre où poser des questions sans tabou ni jugement.
Tous les jeudis, de 20h à 21h, appelez-nous au 04 76 09 09 09.
Bonsoir.
Bonsoir.
Et c'est Calibre en direct sur Radio Kaléidoscope, 97 FM à Grenoble et partout ailleurs sur Internet. Ce soir au micro, c'est Emma
et Myriam.
Voilà, donc pour discuter, échanger avec vous, tout ça. Alors appelez-nous au 04 76 09 09 09. Et à la technique, nous avons Noémie et Laura. Et Noémie accueillera vos appels. Voilà, et c'est super.
Calibre, vous commencez à connaître a priori, hein.
Aujourd'hui, on est quoi? On est le 1er juillet?
Ouais, c'est ça, ah, voilà, c'est juillet. Et ben, du coup, on en profite pour vous dire qu'on sera là a priori tout le mois de juillet, donc tous les jeudis à 20h en direct du mois de juillet.
Et on est bien contente parce que on se laisse pas avoir par le calendrier estival.
Ni par la chaleur. Enfin, si, un peu, là, on était en pseudo-sieste juste avant.
Ouais.
Du coup, Calibre, c'est une libre antenne. Ce que ça veut dire, c'est que, dans l'idée, c'est vous qui nous appelez pour lancer les sujets sur lesquels on parle. Alors, soit en posant une question, soit en apportant un témoignage, soit en rebondissant sur des trucs que vous avez entendus à Calibre ou ailleurs, d'ailleurs. Et puis, c'est autour des thématiques qui touchent à nos intimes, à nos sexualités, à nos relations affectives, à nos corps, tout ça, quoi.
Oui. Calibre, c'est tous les jeudis soirs de 20h à 21h, en direct, et voilà.
Voilà, rappelons que nous n'avons pas réponse à tout, puisque nous ne sommes pas des expertes, nous ne sommes pas diplômés de sexologie ou des trucs comme ça. Par contre, on a envie d'écouter tout ce qui vous passe par la tête, en tout cas tout ce qui vous préoccupe, donc il n'y a aucun tabou à Calibre, et vraiment, on essaye de ne pas juger les personnes qui nous appellent, ni les personnes qu'on rencontre, ni nous-mêmes d'ailleurs, pour se sentir libre de partager ce qu'on a envie de partager.
Voilà.
Et puis rappelez aussi que vous pouvez rester anonyme sans problème en appelant, vous n'êtes pas obligé de donner un prénom, ni le vôtre, ni vous pouvez vraiment dire ce que vous voulez, quoi.
Donc sans tabou, sans jugement, on est là pour discuter, échanger sur des sujets, et puis effectivement, on n'est pas des expertes, après... Voilà, on est forte de nos expériences, comme chacun et chacune d'entre nous. Et puis on essaye d'apporter des éléments. Et puis, on a quelques ressources sur des questions techniques, etc. Donc, faut pas hésiter aussi à demander des conseils ou au moins poser des questions. Et puis, si on peut y répondre, on y répond. Et puis, sinon, on dit qu'on ne sait pas. Et voilà.
Tout à fait.
Alors, la semaine dernière, il y a eu un souci. C'est-à-dire que tout s'est bien passé, mais les personnes qui écoutaient la radio à ce moment-là n'ont pas entendu la personne qui parlait au téléphone. Donc c'était un peu dommage parce qu'on entendait les copines faire « Ah oui, très intéressant !»
En plus, c'était vraiment un appel super intéressant.
Voilà, sur les questions de stérilité et contraception féminine, etc.
De stérilisation volontaire, en fait.
Voilà. Et donc, on voulait vous dire que si vous souhaitez réécouter cette émission, on a récupéré l'enregistrement qu'on avait fait à la radio, où là, on entend le téléphone, on entend la personne qui était au téléphone. Donc, ça fait une émission un peu complète. Donc, vous pouvez la télécharger sur le site internet de Calibre.
Je pense qu'elle n'y est pas encore tout de suite parce qu'on l'a récupérée, c'est le temps de la mettre, mais bientôt, très très bientôt.
Voilà.
Donc le site internet, c'est calibre, cas-libre au pluriel,
.poivron.org.
Voilà, on va s'enchaîner. Non, vas-y.
Non, c'est simplement pour dire que vous pouvez télécharger les émissions, elles sont toutes en ligne et je crois que c'est la 23e là ou quelque chose comme ça.
Dans ces eaux-là, ouais.
Ouais, voilà. Donc plein de sujets abordés, plein d'émissions différentes avec des personnes différentes. Donc voilà, c'est aussi possible de faire ça. On se lance la première musique ?
Ouais, je vais rappeler juste le numéro de téléphone au cas où vous étiez encore aux toilettes quand on a démarré et que vous écoutez pour la première fois. Donc le numéro de téléphone pour nous joindre maintenant tout de suite en direct dans la cabine technique, c'est le 04 76 09 09 09.
Et là on s'écoute les Rita Mitsouko.
Avec C'est comme ça. We'll be right back.
Et vous êtes toujours sur Calibre 97 FM, Radio Kaléidoscope, en direct, tous les jeudis soirs de 20h à 21h. Voilà, donc on a démarré l'émission, on n'a pas d'appel, alors nous, on va blablater, hein.
Bah oui.
Voilà, et tu voulais nous parler d'un truc.
Ouais, je discutais hier, bah tiens, avec Laura d'ailleurs, qui avait entendu parler de genre de nouvelles méthodes révolutionnaires en termes de contraception masculine. Et du coup, je suis allée me renseigner. Elle a eu peur hein, que je dévoile d'autres trucs. Bon, du coup, je suis allée un peu me renseigner. On avait déjà cherché un petit peu ce qui existe en méthode de contraception masculine. Bon, je suis au regret de dire qu'aujourd'hui, en l'état actuel des choses, les seules méthodes de contraception directement prises en charge par physiquement, on va dire, par l'homme, c'est le préservatif, donc qui est finalement pris en charge un petit peu par les partenaires, tous les partenaires, et la vasectomie qui est une contraception définitive, une stérilisation. Bon, il y aurait l'abstinence aussi, mais bon, c'est, je sais pas si on peut appeler ça une méthode de contraception. Par contre, il y a plein de recherches en fait partout dans le monde qui sont faites pour développer des méthodes de contraception masculine. Je peux vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Alors il y a par ici, en France, en Europe, c'est plutôt des méthodes hormonales qui sont en train d'être testées. Donc soit sous forme de pilule, soit sous forme de gel ou d'injection. Et la plupart du temps, c'est à base de testostérone. Donc on injecte de la testostérone pour bloquer la fertilité des spermatozoïdes. Bon, je vais pas vous raconter en détail parce que pour l'instant c'est toujours à l'état de recherche. Donc je peux pas trop vous parler d'efficacité tout ça encore. Après, il y a deux autres méthodes qui elles ne sont pas des méthodes hormonales qui sont en train de développer, une plutôt en Asie et spécialement en Inde, qui est en fait un gel qui est injecté dans le canal déférent. Donc le canal déférent, c'est celui qui passe en gros des testicules à la verge où les spermatozoïdes et le sperme passent. Et en gros, c'est une injection de gel qui va bloquer le canal et le passage donc des spermatozoïdes. Et c'est une méthode qui serait réversible, c'est-à-dire après on réinjecte une espèce de dissolvant chimique qui fait exploser ce bouchon-là, enfin exploser gentiment, enfin qui dissout hein, le bouchon de gel, et le bonhomme peut de nouveau utiliser ses spermatozoïdes pour féconder un ovule. Donc ça c'est une méthode qui avait été développée il y a une quinzaine d'années en Inde, qui avait été testée, qui avait été arrêtée parce qu'il y avait des histoires d'effets secondaires. Et finalement, là, les tests viennent de reprendre. Donc, il faut attendre un petit peu encore, je pense, quelques années pour savoir ce que ça va donner. Et puis, une autre méthode qui, là, est plutôt testée aux États-Unis et qui a eu l'autorisation de mise sur le marché en avril, mais le laboratoire préfère continuer à faire des tests avant de commercialiser. Là, c'est une méthode, pareil, on obstrue, l'idée, c'est d'obstruer le canal déférent, mais cette fois pas en injectant un gel, mais en mettant un petit, alors ça s'appelle un clamp, je sais pas. En gros, c'est comme un grain de riz qu'on va placer dans le canal déférent et qui empêche le sperme de passer. Dans l'idée, il peut être ce petit grain de riz là, il peut être retiré à la demande de l'intéressé et du coup, ça serait une méthode réversible. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'aux États-Unis, il y a 500 000 États-Uniens qui procèdent à une vasectomie chaque année. C'est un truc de fou, moi. Quand j'ai vu les chiffres, j'ai halluciné. Bon, alors ces méthodes, du coup, en fait, elles existent. En tout cas, les recherches existent. Elles sont beaucoup moins développées, les recherches, que celles qu'il y a eu sur la contraception féminine. Ça, c'est sûr. Mais au début de la contraception féminine, c'était le beans comme ça aussi. Hein. On savait pas trop où on allait. Il fallait faire des tests sur animaux, sur humains. Et du coup, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler, on entend beaucoup dire « Oh là là, mais il n'y a rien en termes de contraception masculine et tout. » Mais en fait, c'est à nous et puis surtout à vous, les gars, de faire pression pour que ces recherches, elles continuent, quoi, pour que vous puissiez vous approprier ces questions de manière aussi physique. Voilà, après, on a tous un peu, tous et toutes, je pense, du chemin à faire aussi dans les têtes, parce que c'est compliqué peut-être pour nous aussi de laisser la responsabilité d'une éventuelle grossesse à un gars, en fait, alors que la grossesse, elle va se produire dans notre corps. Il y a une histoire de confiance à bâtir. Donc, ça ne veut pas dire que la contraception masculine, c'est une solution pour tout le monde. Mais en tout cas, ouais, ça peut être intéressant. Je pense que les gars se motivent pour faire pression politiquement, pour que ces recherches se développent, tout ça, quoi.
Ouais, puis ça permet de pouvoir partager la responsabilité. On en a souvent parlé dans cette émission, mais en tout cas, la préoccupation et la responsabilisation autour des questions de contraception, c'est dans le cadre d'une relation hétérosexuelle, ça peut être vraiment intéressant de creuser ça, quoi. D'accord. Et moi, je me rappelle qu'il y a une amie qui me disait « Tiens, mais pour votre émission de radio, vous parlez jamais des slips chauffants. » Et
bon, c'est vrai.
Je me souviens qu'on en a parlé du coup une fois dans nos petites réunions et que on n'était pas très très au courant en fait de cette méthode qui était plus utilisée il y a genre une trentaine d'années,
ouais.
Qui était un peu une méthode qui avait été développée sur le principe du réchauffement en fait du corps et notamment des testicules de l'homme qui permettrait un endormissement un peu enfin ou en tout cas qui serait un moyen de contraception plus ou moins efficace voilà du côté contraception masculine mais voilà moi je suis pas plus renseignée que ça je pense que c'est pas un truc qui est très développé encore à l'heure actuelle. Mais ça serait peut-être intéressant d'aller interroger des hommes qui ont utilisé ça ou des couples. Enfin, moi, ça m'intéresserait bien en tout cas.
Moi, c'est vrai que j'ai entendu parler ou de slip chauffant ou de slip en fait qui vont maintenir les testicules vraiment contre le corps et du coup, c'est la chaleur du corps qui va chauffer les spermatozoïdes. Mais bon, si jamais vous qui nous écoutez, vous avez des histoires de slip chauffant ou d'autres types de contraception masculine ou féminine, hein, d'ailleurs, dont on parlerait pas souvent, eh bien, n'hésitez pas à nous appeler pour nous témoigner ou poser vos questions. Ou si vous savez qu'il y a des trucs qui vraiment marchent pas du tout, pareil. Je pense notamment à tout ce qui est les méthodes naturelles de contraception. On n'en a pas trop parlé parce que ça fait débat entre nous. C'est des méthodes qui...
Méthodes dites naturelles. Ouais. C'est sans hormones, quoi.
Ouais, non, là, je pense vraiment aux méthodes où tu calcules tes moments de fertilité ou pas. Et du coup, qui demandent vraiment, vraiment de connaître son corps. Très, très bien son corps, de savoir l'observer, de reconnaître les signes. Donc voilà, c'est des choses dont nous, on n'a pas parlé directement. Voilà, si vous avez envie de témoigner, par contre, bien entendu, l'antenne est ouverte pour ce genre de témoignage aussi, quoi.
Ouais. Bon, ben, on va se lancer une autre musique. On fait une émission dynamique ce soir, voilà, où on parle pas trop et on parle, mais on passe plein de musique aussi et on fait plein d'allers-retours comme ça. On s'est dit ça. Alors, du coup, là, c'est Lala Bolduc avec le vol aller.
Le vol
un petit loupé
sans étalage.
Le vol sans étalage.
Jouant à loisir des tentations matérielles qui se tentent à mon insu et bravent mon ego. De flipper, de pipe aux sorties, complicité des vigiles qui deviennent tes amis. À moi le jeu de la non-récidiviste. Des mains courantes remplies à l'improviste. Et smash
dans le sac
et zip
dans la braguette.
Je suis là pourvu qu'il passe dans ma ceinture car j'ai encore un peu grossi. Plus gros,
toujours plus gros.
Le jeu. Contourner les caméras et dévier les regards, les enjeux. Rendre transparent le contenu du contenant. Naïveté apparente, permise. Bleuté des yeux de la façade, requise. Non, tu n'es pas un rhum habitué au trafic. Non, pas un beurre à rhum connu par tous les flics. Non, tu n'es pas une pute des quartiers chauds que l'on tiendra au cas. Devant le brigadier, trouver le sentiment commun d'une liberté bafouée. Mais voilà qu'il prend ma défense et me voilà complice de sa fasciste instance. Rompre, casser la fâcheuse habitude d'accaparer des biens pour se rassurer. Lasser de cru interroger les caissières en jouant l'honnêteté et mon rôle de bonne mère. Lassée de contrôler le flux sanguin à mes tempes, à mes joues, dans mes mains. Chaleur pesante des néons, agressivité causante des haut-parleurs, des rayons. Jouissance intérieure et anxiété se mêlent à la vue du résidu que je veux bien payer et laisser défiler au rythme lent des tapis roulants. Mon sac en crève. J'attrape la monnaie sans trembler, remplissant le plastique protecteur sans heurts. Heure de passer devant le tribunal. Le procureur ne peut plus m'encaisser, n'apprécie pas mon jeu de rôle dans un centre commercial, mais les produits sont là et me tendent les bras. À loisir, des tentations matérielles qui se tentent à mon insu et bravent mon ego. Plus de shopping free au rayon des drugstores, des intoxications d'une surconsommation que je déplore. Légitime défense devant les jurés, les biens foisonnent au bénéfice des mêmes personnes. Libérons le vol, que l'on puisse jouir à loisir des tentations offertes dans un pays de cocagne ou ma duquel on glisse.
C'est bien Calibre, l'émission de Libre Antenne pour parler de sexe, d'amour et de corps. Et vous pouvez nous appeler toujours au 04 76 09 09 09. Alors Emma, je crois que toi, tu as fait un petit tour sur Internet aussi et que tu as trouvé des choses, ma foi, fort intéressantes.
Oui, alors j'avais envie de parler de Dirty Diaries, qui est en fait une session de 12... court-métrage pornographique en fait réalisé par 12 réalisatrices différentes et qui vont bientôt passer au cinéma. Ça sort le 30 juin et je crois qu'ils vont être diffusés du 30 juin au 6 juillet. Je crois que ça va pas passer dans toutes les salles et que ça va pas être non plus dans tous les UGC, etc. parce que c'est du film pornographique. Donc je pense que bon voilà, faut se renseigner un peu si ça passe près de chez vous. Mais en tout cas, j'ai trouvé cette info intéressante parce que en page d'introduction, par exemple, les personnes qui mettent en place un peu cet événement ont expliqué un peu leur démarche et parlent de repenser la pornographie, de montrer aussi une pornographie un peu différente de celle qu'on trouve massivement dans la production industrielle pornographique et qui là est réalisée par uniquement des femmes et du coup voilà, elles disent on voulait porter un autre regard sur la pornographie, montrer des choses différentes. Et donc voilà, je pense que ça peut être intéressant d'aller voir. Je sais pas du tout ce que donnent ces films, et peut-être ça me plairait même pas. Mais en tout cas, ça me rend curieuse et j'irais bien faire un tour de ce côté-là, quoi. Donc ça s'appelle Dirty Diaries et voilà. Et en fait, on peut aller voir l'info sur Internet. Je pense que si vous tapez sur un moteur de recherche Dirty Diaries, peut-être qu'il faut préciser porno féminin ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, voilà, c'est pour repenser la pornographie.
Et les films porno, ils passent dans les salles de ciné classiques ?
Ben justement, je pense pas. Je pense que c'est des salles de
ciné porno, donc on n'a pas beaucoup.
Peut-être,
quoi.
Ouais. C'est du court-métrage, donc peut-être aussi ça va être l'objet de... Parfois dans les cinémas tout public, il peut y avoir des semaines comme ça à thème, et du coup peut-être que certains cinémas vont saisir l'occasion de diffuser ces films en mettant une programmation spéciale ou quelque chose comme ça, quoi.
D'accord. Bon, ben, vous qui nous écoutez et qui êtes sur Internet, vous pouvez par exemple ouvrir une autre fenêtre et puis nous appeler pour nous communiquer les dates de passage de ces films par ici. Comme ça, tout le monde aura l'info.
Ouais, parce qu'en fait, ce site, il est bien fait et à la fois, c'est difficile d'avoir les infos. Moi, je voulais un peu dire, ah bah tiens, sur Grenoble, où est-ce qu'on pourrait aller les voir? Et j'ai pas trouvé. Alors voilà, autant il y a plein d'infos sur les films avec des résumés, les synopsis qui sont décrits, etc. Mais en ce qui concerne
la diffusion,
voilà, il y a pas, enfin en tout cas moi j'ai pas trouvé. Mais bon, voilà, je pense qu'il y a des gens qui surfent de manière plus efficace que moi sur Internet.
Sans doute.
Voilà, donc Dirty Diaries. Et puis l'autre petit tour que j'ai fait, c'est à propos d'un jeu que j'ai trouvé sur Internet, mais par l'intermédiaire aussi du site Internet de Maya Mazorette qui s'appelle sexactu.com, que je vais voir régulièrement puisque c'est... Alors, j'aime pas tout dans Sex Actu, mais en tout cas, c'est un blog que je trouve assez drôle et frais et léger. Voilà, que fait Maya. Et en fait, elle aborde plein de sujets. Et notamment, là, il y avait, elle met le lien sur un jeu qui s'appelle Le Bisou. Alors, du coup, on tombe sur une page comme ça qui s'appelle lebisou.com. Et
sympathique nom.
Le bisou. Bon. Et du coup, donc lebisou.com, c'est un jeu interactif qu'on peut faire à deux ou à plusieurs d'ailleurs. Bon, c'est présenté comme un jeu pour les couples. Ou si on se trouve en compagnie d'une personne qu'on apprécie bien, et ben on peut faire un jeu donc avec l'ordinateur, mais il faut être tous les deux dans la pièce en présence, donc c'est pas un jeu à travers Internet, mais plutôt un support de jeu comme on pourrait ouvrir un Monopoly. Et ben là on ouvre une page Internet, quoi, un Monopoly d'ailleurs. Non, c'est pas marrant le Monopoly, je sais pas moi, un autre jeu en tout cas. Voilà.
Secret Girls.
Ouais. Alors, lebisou.com, c'est un jeu sur la base de... on remplit des petites cases, à savoir si on est un homme ou une femme. Bon, si on n'est ni l'un ni l'autre, dommage. Il va falloir choisir quand même. Et puis, si on est hétéro, homo, bi, etc., etc., Et on décrit aussi son ou sa partenaire, et on décrit aussi un peu avec quels vêtements on est habillé, et est-ce qu'on a des objets avec nous ou des ustensiles quelconques. Et à partir de ça, le jeu nous propose différents scénarios. Je te sens sceptique.
J'attends la suite.
Et donc, en fait, il va y avoir des niveaux. Et ça va de envie de se faire des câlins, des tendresses, des caresses, etc., à faire du sexe et aucune limite. Donc, suivant ce qu'on a envie, il y a des types de jeux qui sont proposés suivant ces niveaux-là. Ok ?
Donc, c'est-à-dire tu définis ton niveau avant,
ouais,
au début.
C'est ça.
D'accord.
Voilà.
D'accord.
Si t'es okay. Dans une ambiance aucune limite, tu peux mettre aucune limite dès le départ. Si t'es plutôt dans une ambiance soft, on va dire, ben tu peux mettre ça. Et
d'accord.
Là, il te déplie une multitude de jeux associés à ce niveau d'envie. Et donc j'ai essayé un peu, mais toute seule. J'ai
drôle.
Pas encore osé le proposer à quelqu'un. Et bah je sais pas, après je suis pas restée 3 heures devant ce jeu, hein, mais je me suis bien laissée embarquer et je trouve que il y a des choses qui sont assez drôles, et puis c'est des fois il y a des formules ouais, c'est ça, un peu rigolote ou qui désacralise un peu le sexe et la façon de faire du sexe. Et Bon, voilà, je pense que tout pareil, encore une fois, il faut prendre ce qu'on aime et puis laisser ce qu'on aime moins. Et puis peut-être il y a des gens qui vont aller faire un tour sur ce site et qui vont m'appeler la semaine prochaine pour m'insulter. Bon, bah voilà, comme ça au moins on en discutera. Mais bon, en tout cas, moi, de ce que j'ai vu un peu là, c'est, je me suis dit, bah tiens, ça peut être un support ludique, intéressant pour faire du sexe avec quelqu'un ou avoir en tout cas un jeu autour du corps et du sexe et que, ouais, voilà.
Okay. Et c'est gratuit, le
ouais, c'est quoi. Gratuit. Alors, si on n'a pas envie de mettre sa vraie adresse email, moi j'ai mis une adresse email bidon et ça a marché, quoi. Donc,
okay.
Donc voilà, donc je me suis dit que peut-être je testerais parce que c'est rigolo, quoi.
Et t'as déjà testé des jeux de ce type, mais avec des plateaux, des cartes et tout, j'ai vu que ça existait, moi j'ai jamais testé ce genre de choses.
Là, je me souviens quand j'étais ado au lycée, on avait essayé le Trivial Rose là, le Trivial Poursuite, je sais plus comment ça s'appelle, Love Trivial. Mais à
super
part ça,
nom,
non, j'ai pas testé des jeux de plateau, mais effectivement, il y en a et en tout cas, moi je trouve que c'est une piste intéressante à creuser les jeux parce que bon, voilà, là, on parlait de ces fameux forums sur Internet où les gens posent des questions ou voire même écrivent qu'ils sont en détresse, notamment sur des questions de désir, sur des questions de relations longues où c'est difficile de maintenir un rythme ou en tout cas du désir autour de partager de la sexualité et... Bon, il peut y avoir plein de réponses et de pistes à ça. Et moi, je crois que une que j'entrevois, c'est ça aussi. Mmh. C'est développer un peu l'aspect ludique de la sexualité, quoi. En tout cas, de la sexualité partagée avec une personne.
Mmh.
Voilà.
Tout à fait.
Donc, vous pouvez aller voir lebisou.com.
C'est lebisou.com, le
ouais.
Site.
Ok. Mais ça m'intéresse d'avoir des retours de gens qui auraient essayé.
Voilà. Appel à témoignage.
Alors, on va se relancer une petite musique et puis vous pouvez toujours nous appeler au 04 76 09 09 09.
Et profitez de ce morceau de musique pour nous appeler parce qu'après, je vais me lancer dans une lecture d'un texte. Et du coup, si vous n'avez pas envie d'écouter une lecture, appelez-nous. Hein. Donc, la musique, bon, vous allez reconnaître, hein, c'est Queen. I want to break free.
Falling in love. get used to living without, living without, living without you by my side.
Calibre, c'était Queen, I Want to Break Free, et vous pouvez nous appeler encore, il est temps, au 04 76 09 09 09. Et oui, et donc du coup, avant de me lancer dans la lecture, je vais vous raconter pourquoi j'ai envie de vous lire ce texte. En fait, il m'est arrivé un truc pas bizarre en fait, c'est très classique pour les gens, mais pas pour moi. Il se trouve que j'avais besoin d'un maillot de bain, vous savez, c'est la saison. Hein, c'est là. Bon, et puis se baigner à poil, c'est cool, mais il y a des endroits où c'est pas possible. Donc à un moment, on a quand même besoin d'un maillot de bain. J'aime pas les maillots de bain de pièces. Et j'aime pas les maillots de bain ultra échancrés où du coup t'es obligé de t'épiler ou de te raser le sexe pour pas que ça dépasse partout, ça me saoule. Donc voilà, je vais dans un magasin centre-ville que j'ai cherché un petit moment. Bon, je vous dirai pas lequel c'est, mais de toute façon, je pense que c'est pareil partout. Et du coup, je rentre, déjà, je savais pas, il y avait les soldes le lendemain, donc les vendeuses, elles étaient juste sur la préparation des soldes, machin, moi je pouvais pas en placer une. Bon bref, j'arrive en attirer l'attention d'une et je lui demande donc, bonjour, est-ce que vous avez des maillots de bain? Je cherche un maillot de bain, une pièce. Donc il n'y avait qu'un modèle de maillot de bain, une pièce, qu'un seul modèle, hyper échancré, et les tailles c'était du 34 au 40.
Ah ouais.
Voilà. Donc je suis ressortie en disant merci. Donc en gros, j'ai rien à faire dans ce magasin-là, quoi.
Il y avait
voilà.
Qu'un modèle
ouais.
De maillot de bain, une pièce.
Ouais.
C'est fou ça.
Mmh.
Ouais.
Bon, tout ça, c'était une introduction pour vous parler d'un texte que moi j'ai beaucoup aimé. Alors c'est un texte qui est extrait d'un bouquin dont on vous a déjà parlé, qui s'appelle « Mon corps est un champ de bataille, analyse et témoignage ». Et ça, c'est le premier tome où il y a du coup des textes aussi de réflexion théorique, en tout cas de réflexion sur tout ce qui est rapport au corps. Alors, c'est la grosseur, là, dont je vais parler, mais c'est aussi les poils, c'est en gros comment on s'aime ou pas. Et puis, du coup, voilà, ce qui va autour de nos corps de femmes. C'est un bouquin écrit par des femmes.
En tout cas, c'est clair que c'est vachement intéressant le sujet du maillot de bain, parce que je trouve que c'est hyper révélateur, bien et de manière bien spécifique de l'esthétique et du modèle en fait du corps des femmes, comment on doit être en fait.
Comment on doit être belle en maillot.
On doit être mince déjà, parce que tu parlais des tailles, ça allait jusqu'au 40. Et aussi, on doit être épilé.
Eh oui.
Parce que, effectivement, les maillots de bain, aujourd'hui, c'est la mode de l'échancré, quoi. Donc, c'est fou.
Oui, ou alors tu fais de l'échancré avec des poils, mais ça passe beaucoup moins bien.
C'est moins glamour. Hein.
On a déjà parlé
pourtant,
un peu.
Ce serait...
Ouais. Ouais,
ça
toi,
peut
ça
être glamour aussi.
Ça peut être mais en fait, je crois que j'ai pas envie d'être glamour. Enfin, oui. J'ai envie de choisir les moments où je suis glamour et pas parce que mon maillot de bain, il est échancré, tu vois.
Oui.
Bref. Donc ce texte, c'est un texte de Carla Rice, qui est une nana canadienne. Donc il a été traduit pour ce bouquin-là. Et puis il a été écrit en juillet 1994. Donc ça commence à faire un petit moment, genre 16 ans. Mais c'est encore d'actualité. Alors je vais lire doucement parce que le texte est un petit peu long et je voudrais pas vous perdre en route. Il s'appelle « Occuper la place ». Paradoxalement, alors que nous, femmes, avons gagné du terrain dans les sphères publiques au cours du XXe siècle dans la culture occidentale, nous avons gravement et désespérément reculé, occupant de moins en moins d'espace réel, physique. De fait, 90% d'entre nous n'aimons pas la taille et la silhouette de notre corps. 70% faisons continuellement des régimes, près de 20% d'entre nous développons de graves troubles liés à la nourriture et au poids.
alors que 50% des Canadiennes font déjà un régime avant l'âge de 9 ans. Nous léguons nos souffrances à une nouvelle génération de femmes et les regardons prendre le relais de notre douleur la plus intime. Nous avons été élevés dans une culture où les mensurations du corps sont d'une importance extrême, où la minceur est synonyme de santé, de séduction, de moralité et de sexualité, où en fait la valeur essentielle d'une femme dépend de sa capacité à mincir. Marilyn Monroe, qui incarnait l'idéal féminin dans les années 50, aurait sans doute une dizaine de kilos de trop pour les standards d'aujourd'hui. Oui, parce qu'aujourd'hui, l'idéal de beauté est plus que l'éthique que jamais, incarné par des modèles d'une maigreur famélique, comme Kate Moss, dont les mensurations relevées par les médias varient entre 1m70 et 1m73 pour 44 à 47 kilos. C'est vraiment pas beaucoup. Les messages prônant l'importance d'être mince sévissent couramment dans la publicité, en particulier celles diffusées par les industries de produits de beauté et de régime. Nul besoin d'un œil averti pour remarquer que la publicité dans les magazines populaires, les journaux ou à la télévision promeut un idéal de beauté jeune, blanc, robuste, parfait et par-dessus tout mince. Les femmes en particulier sont continuellement assaillies par des publicités qui clament « vous n'êtes jamais assez mince » ou « obtenez en 2 semaines la silhouette que les mecs aiment ». Les recherches ont montré que l'idéal de beauté est devenu 23% plus mince sur une période de 20 ans, tandis que le poids des femmes a augmenté en moyenne de 4%. Comment cette focalisation sur la minceur affecte-t-elle les femmes ? Les pressions socioculturelles qu'elles subissent pour réduire le poids de leur corps ont très clairement entraîné une augmentation des cas d'anorexie et de boulimie. C'est au cours du XXe siècle que l'anorexie, phénomène rare jusque-là, s'est développée de manière spectaculaire. La boulimie, trouble lié à l'anorexie, était en réalité inconnue avant ces 30 dernières années. Il ne s'agit pas seulement de problèmes spécifiquement culturels et historiques, mais aussi de problèmes sexués. Entre 90 et 95% des personnes présentant de sérieux troubles alimentaires sont des femmes. Et beaucoup de femmes qui ne sont ni anorexiques, ni boulimiques, affrontent des problèmes apparentés tels que les régimes yo-yo, une alimentation compulsive ou une préoccupation constante concernant la nourriture et le poids. Au cours des 10 dernières années, les chercheurs ont commencé à se pencher sur les effets négatifs de l'engouement pour les régimes et à porter un regard critique sur ce que ces programmes de régime affirment. Il est tout d'abord évident que pratiquement tous ces programmes obtiennent des résultats très médiocres. Des études montrent que près de 95% des personnes au régime reprennent la totalité du poids perdu au cours de l'année suivante. 95% des personnes reprennent le poids perdu l'année suivante. Les régimes ne sont pas seulement inefficaces dans le long terme, mais il est désormais clair qu'ils comportent une certaine part de risque. En plus d'une alimentation déséquilibrée, les régimes entraînent affaiblissement, fatigue, vomissement, boulimie, prise de poids, obésité, voire mort soudaine suite aux dommages que le cœur a subis. Les régimes peuvent aussi être à l'origine du diabète et de maladies cardiaques. Petite parenthèse, il y a les noms des chercheuses qui sont cités, mais je vous les épargne à la lecture, c'est compliqué, mais donc c'est vraiment des chiffres documentés. La plupart des femmes qui ont grandi en Amérique du Nord ont appris qu'il était indigne, malsain et même immoral de ne pas être capable de garder la ligne. Comble de l'ironie, car dans de nombreuses sociétés à travers l'histoire et les différentes cultures, le fait d'être grosse était associé à un statut social enviable, la grosseur étant un signe de santé là où la nourriture n'abonde pas. Même dans la culture occidentale, elle était associée à la jeunesse et à la beauté, comme le montrent les peintures des femmes bien en chair potelées du XIXe siècle, représentées par des artistes comme Renoir. Cela peut sembler difficile à croire aujourd'hui, mais les publicités des années 1930, vantaient en réalité la prise de poids, attirant les consommatrices avec des slogans alléchants comme « être maigre, c'est dangereux » ou « les femmes maigres ne sont pas désirables ». Pourtant, nous avons appris à mépriser la grosseur. Les personnes grosses, en particulier les femmes grosses, sont victimes de nombreuses moqueries de la part des humoristes et sont vulnérables à l'humiliation publique et au ridicule. Les professionnels de la santé estiment que les personnes grosses sont davantage perturbées que les personnes minces et ont outrageusement tendance à considérer le surpoids comme cause directe de tout problème de santé. Les personnes grosses ont un taux d'accès à l'université plus faible, une probabilité réduite d'être embauchées et des salaires moins élevés. Mais pourquoi notre culture a-t-elle déclaré une guerre à la grosseur ? La haine de la grosseur est justifiée pour des raisons de santé. La grosseur est méprisée parce qu'elle est vue comme dépendante de la volonté d'un individu. Pourtant, la grosseur n'est pas une maladie, ni un symptôme de faiblesse et de déchéance morale. Il s'agit d'un trait hérité génétiquement, tout comme la taille, par exemple. Les femmes grosses peuvent être en aussi bonne santé que les femmes minces. Et les risques de santé liés à la grosseur sont non seulement largement exagérés, mais ils peuvent même être causés par les régimes. De plus, les femmes ont dans le corps un pourcentage adipeux plus élevé que les hommes, donc un pourcentage de graisse, car la graisse est nécessaire au fonctionnement menstruel et reproductif. La guerre contre la grosseur peut être considérée comme un moyen incontestable de saper notre confiance en nous, de détourner le pouvoir potentiel de nos corps. Toutes les femmes, qu'elles soient grosses, moyennes ou minces, apprennent que la grosseur est certainement la cause fondamentale et justifiée de leur souffrance, et que la minceur est le moyen de sortir de l'oppression. Le culte de la minceur offre aux femmes un moyen alternatif et convaincant d'accéder au pouvoir, en manipulant notre corps pour se façonner une silhouette prépubère plus proche des lignes masculines, dans l'espoir de gagner le pouvoir que le fait d'être un homme procure. C'est un moyen illusoire d'atteindre ce pouvoir, car au lieu de nous libérer de la douleur et du conflit, la recherche de la minceur nous plonge encore plus dans un état de désespoir. Notre apparence physique est une préoccupation vide de sens. Elle nous prend une énergie et un temps précieux qui pourraient être consacrés à la recherche du sens et de la substance de notre vie. Cela divise chacune d'entre nous en nous faisant opérer une séparation destructrice entre notre corps et notre esprit, en nous faisant opposer l'un et l'autre. Et cela nous enferme dans une prison invisible, dans une spirale douloureuse et sans fin d'autocritique et de punition. Voilà, donc c'était un texte de Karl Reiss. On peut peut-être s'enchaîner une petite musique
pour digérer tout ça. Oui, c'était pas très gai, mais bon, c'est comme ça que la société marche en ce moment, en tout cas.
Ouais, moi j'aime bien, ça me fait plaisir que t'aies apporté cette lecture parce que je trouve en plus qu'on parle pas beaucoup des questions de corps dans cette émission et du coup ça redonne un peu de la valeur à cette question-là en fait de nos rapports au corps et comment on vit tout ça, etc. Puis c'est vrai que ces textes-là ils sont super beaux quoi.
Absolument, vous pouvez encore nous appeler hein, pour témoigner aussi sur ce... Ce genre de questionnement, hein, que ce soit, est-ce qu'il y a notre aspect physique, à notre grosseur, à notre maigreur, à nos poils, à nos non-poils, à notre hauteur, petitesse, tout ça, quoi, et comment on galère dans la vie pour ressembler à cet idéal esthétique féminin qui est un idéal totalement virtuel. Hein. Toutes les pubs sont retouchées, on enlève la moitié du bras en retouchant la photo par ordinateur pour paraître encore plus maigre. Mais en vrai, les femmes qu'on voit sur les pubs, elles pourraient pas tenir debout si elles étaient vraiment foutues comme ça, quoi.
Elles n'existent pas. Et puis, en plus, peut-être que... Certainement, on est toutes imprégnées de ces images-là et elles ont forcément un impact plus ou moins conscient sur nos envies, nos désirs, comment on vit nos corps. Et par ailleurs, si on essaye d'échapper à cette esthétique-là parce qu'elle nous intéresse pas ou parce que de toute façon elle est trop loin de nous, c'est super dur, quoi. C'est difficile d'y ressembler et je pense que aller sur cette voie-là, ça peut être carrément casse-gueule et dangereux et de toute façon moralement destructeur. Mais quand en plus on veut pas prendre cette voie-là et plutôt développer des images autour de corps différents ou au moins en tout cas apprendre à aimer les nôtres, ben c'est aussi c'est compliqué quoi.
Mais c'est vrai que sur cette question et de grosseur et de vouloir garder ses poils, en tout cas de pas vouloir les virer totalement, mais pas systématiquement, mais souvent on te renvoie dans la tête que c'est du laisser aller, que t'es pas bien, que t'es en dépression,
que tu t'occupes pas de toi.
fait relou, quoi.
Et il y a d'autres manières de s'occuper de soi.
Ouais.
Alors, vous pouvez toujours nous appeler au 04 76 09 09 09. Et là, on
écoute Blondie, ouais. Atomique.
We'll be right back.
Et vous êtes toujours sur Calibre, sur Radio Kaleidoscope, l'émission libre antenne sur les corps, l'amour, les relations, la sexualité, etc. etc. Alors, il est 20h56, donc quand même cette émission touche à sa fin. Et eh bien, j'avais envie de lancer un petit appel à témoignages. Ça sera du coup sans doute pour la semaine prochaine, si jamais vous écoutez cette émission la semaine prochaine, ou vous pouvez aussi nous écrire, on vous rappellera comment c'est possible de nous écrire aussi. En tout cas, voilà, mon appel à témoignage, c'est ça concerne la sexualité pendant la grossesse. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se disent autour de ça, et notamment, ouais, tu verras, au quatrième ou cinquième mois, t'as une espèce de montée de libido, tu vas avoir envie de baiser 5 fois par jour, tu vas avoir des orgasmes de folie et tout ça. Et ben moi par exemple ça m'est pas arrivé et j'imagine que de toute façon on vit cette expérience de manière très différente et que les femmes pendant les grossesses qu'elles ont eues ont un rapport à ça qui peut vraiment diverger, mais moi j'ai trouvé qu'on m'avait vendu un peu ça et que c'est l'arnaque, quoi, parce que moi je l'ai pas vu le pic de libido et tout ça, et je trouve même que c'est assez en tout cas pour ma part assez compliqué là la sexualité pendant la grossesse. Et enfin, en tout cas, déjà de manière générale, la grossesse c'est pas un truc que je trouve très évident. C'est pas l'expérience magique, merveilleuse et tout ça. C'est comme toute expérience, il y a des choses très chouettes et puis il y a des choses beaucoup moins chouettes. Et moi, je le prends un peu comme ça, en tout cas. Et notamment dans le rapport au corps. Ce corps qui change en fait et qui est différent et avec lequel on se sent plus ou moins bien, et ben forcément pour moi ça influe sur la manière de vivre sa sexualité, que ça soit sa sexualité seule en fait, solitaire, la masturbation, ou que ça soit la sexualité partagée. Moi ça a changé beaucoup de choses. Et alors bien sûr, il y a plein de ressources pour ça. On peut développer d'autres pratiques, on peut utiliser des supports qu'on n'utilisait pas avant, ou voire même aussi se mettre tranquille avec le fait qu'on a peut-être moins envie de sexualité pendant cette période-là, etc. Mais en tout cas, je trouverais ça intéressant d'avoir des retours et des témoignages sur cette question-là, parce que on a tendance quand même à dire des choses très très positives autour de la grossesse, qui serait une expérience merveilleuse, et aussi y compris sexuellement, que on aurait des pics comme ça, que ce serait systématique, alors que moi j'ai fait l'expérience que c'est pas forcément vrai, et je suis sûre qu'il y a plein d'autres femmes comme moi, et que c'est intéressant de discuter aussi de comment on peut traverser des expériences comme celle-ci qui sont pas forcément toujours idylliques, quoi, et se donner des tuyaux et tout ça. Alors vous pouvez appeler la semaine prochaine,
donc le 8 juillet.
Voilà,
toi tu seras là, hein?
Oui, je serai là.
Tu seras en direct aussi, donc ça pourrait être l'occasion de discuter.
Oui. Donc au 04 76 09 09 09, et sinon
sinon
vous écrire.
Ouais, vous pouvez aussi écrire un mail si vous avez pas envie d'appeler. Donc le mail c'est calibre, donc CAS-du-milieu libre au pluriel @poivron.org. Que dire? Oui, moi je voulais faire encore un petit point agenda pour vous parler de cette fabuleuse pièce là dont on vous bassine les oreilles. Si jamais certaines et certains d'entre vous n'auraient pas encore eu la chance d'aller la voir, se seraient fait refouler aux entrées puisque toutes les salles étaient pleines. Enfin bon, le succès formidable, quoi. Donc cette pièce c'est En suivant Emma, donc c'est sur Emma Goldman, une femme anarchiste et féministe qui vivait il y a 150 ans à peu près. Et c'est donc une troupe de filles, femmes, meufs qui ont monté ce spectacle en non-mixité et qui le tournent. Donc il y a déjà eu pas mal de dates sur juin, et là on attend impatiemment les dates de juillet, et je vais vous les donner en avant-première.
Donc les Amazones se produiront sur Genève dans un lieu qui s'appelle l'Écurie le samedi 10 juillet, donc c'est dans 10 jours à peu près, à 20h30, puis le dimanche 11 à Chambéry, à l'espace Pierre Cotte, à 18h30 cette fois. Ensuite, le mercredi 14, elles seront dans le Trièves à Saint-Paul-les-Monestiers dans une bergerie et ce sera à 19h30. Puis, alors peut-être le dimanche 18 sur Lyon, mais c'est pas sûr, alors on va attendre d'avoir confirmation. En tout cas, le lundi 19 à Saint-Martin-d'Hères vers 19h a priori. Et puis après, ben, elles partent en tournée dans le sud. Donc un petit périple au soleil, Marseille, les Cévennes, Terre Blanque vers Toulouse, tout ça. Si vous voulez plus de précisions, vous pouvez écrire un mail à l'adresse suivante en suivant Emma, tout attaché en minuscule, donc E-N-S-U-I-V-A-N-T-E-2-M-A. @gmail.com. Voilà.
Super. Alors, il est 21h02, on va rendre l'antenne. Alors, je sais pas, je crois qu'on se quitte sur le jingle, tout simplement.
Ouais, voilà. N'hésitez pas à renvoyer les gens sur le site internet si vous avez adoré cette émission et les autres et que vous avez envie qu'ils les téléchargent, les écoutent et les réécoutent. Donc, le site, hein, je l'ai déjà dit, k-libre.poivron.org. Et puis on vous rappelle donc que nous on est là jusqu'à fin juillet, donc on vous dit à la semaine prochaine et puis
20h sur Radio Kaléidoscope.
À bientôt, salut.
Bye bye.
Corps,
amour, sexualité.
Calibre, une émission en direct sur Radio Kaléidoscope.
Calibre, une antenne libre où poser des questions sans tabou ni jugement.
Tous les jeudis de 20h à 21h. Appelez-nous au 04 76 09 09 09.